Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Picasso allait vivre encore 3 ans quand Kamel Daoud naissait en Algérie en 1970. Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très très bien.
Vous avez appris le français seul avec des livres et aujourd'hui vous êtes un des très grands écrivains de langue française. Vous vivez à Oran et beaucoup des auditeurs et moi-même avons découvert votre travail lorsque a été célébré votre magnifique roman Meursault contre-enquête. C'est un livre de rage et de poésie publié aux éditions Actes Sud, écrit en contrepoint de L'étranger de Camus et qui avait été récompensé par le Goncourt du premier roman. Depuis, il y a eu Zabor ou les psaumes, c'est son titre.
Exact.
Un peu autobiographique, n'est-ce pas ?
Largement.
Largement autobiographique. C'est un conte émouvant qui est aussi une ode à l'écriture et qui nous dit comment elle peut nous sauver réellement de la mort et de la pétrification de l'âme et de l'esprit à laquelle nous conduisent les intégristes. Il y a aussi de nombreux articles, toujours retentissants, des prises de position passionnantes, débattues, car quand vous étiez rédacteur en chef du quotidien d'Oran, vous avez fait près de 2000 chroniques, dont une centaine ont été rassemblées chez Babel sous le beau titre de « Mes indépendances ». Très beau titre, je trouve.
Qui était l'expression d'une conviction, quelque part.
Je pense qu'une grande partie de votre travail n'est que l'expression de vos convictions. Et comme vous le faites encore, vous avez fait ces chroniques à grand risque, en tentant de convaincre le monde arabe de ne pas tourner le dos à l'homme, à la liberté et au désir. Et c'est ce que vous appuyez dans une dernière tribune au Monde publiée le 21 septembre dernier et intitulée « L'orgasme n'est pas un complot occidental ». C'est un titre très violent, qui peut être ressenti très violemment probablement.
Non, c'est juste pour rappeler que les luttes qui se mènent de l'autre côté de la Méditerranée, dans le sud, dans le monde qu'on appelle musulman ou qu'on appelle arabe, c'est que toutes les valeurs fondamentales, celles de la liberté, du droit au corps, de l'orgasme, de la joie, sont volontairement confondues avec des valeurs dites occidentales par les intégrismes et les radicalismes chez nous pour nous discréditer, pour nous pousser vers ce que j'appelle moi la fabrication du traître. Comme ça, on nous décrédibilise et on diminue l'impact de ce que nous disons sur le lectorat, sur les populations, sur les gens. Donc, il fallait un petit peu démontrer que l'orgasme n'est pas un complot international, n'est pas un complot occidental, mais un droit humain.
Et cette sensualité que vous défendez, c'est le thème de ce livre qui nous rassemble aujourd'hui autour de vous et de votre rencontre avec Pablo Picasso. Donc le livre s'appelle « Le peintre dévorant la femme ». C'est un livre que vous avez dédié aux femmes qui, dans le monde arabe ou ailleurs, n'ont pas droit à leur propre corps. Un livre qui raconte votre nuit au musée Picasso pendant l'exposition Picasso 1932. C'était en septembre, il y a un an. Et c'est une exposition qu'on a aussi appelée Picasso érotique puisque c'est l'année d'une explosion sensuelle de son œuvre à l'occasion de sa rencontre avec Marie-Thérèse Walter qui sera immédiatement et pour longtemps sa maîtresse. Écoutons ce que vous dites de votre invitation.
Je suis un arabe invité à passer une nuit dans le musée Picasso à Paris, un octobre au ciel mauvais pour le méditerranéen que je suis. Une nuit, seul, en enfant gâté, mais en témoin d'une confrontation possible, désirée, concoctée. J'appréhendais l'ennui, cependant, ou l'impuissance. Pour comprendre Picasso, il faut être un enfant du vers, pas du verset.
Thank you. Lorsque le livre commence, il ne commence pas par ce que je viens de dire, de ce qu'on vient d'entendre, il commence par « L'érotisme est un rite de chasseur ». Mais je voulais qu'on entende tout de suite les raisons de cette aventure, et curieusement, dans cette phrase, vous commencez par dire « Je suis un arabe », comme si ça avait tellement d'importance d'être un arabe au milieu du monde de Picasso.
Absolument. Je pense que, pour moi, l'enquête, l'archéologie que l'on doit faire sur notre rapport à l'image est quelque chose de nécessaire et d'urgent. J'ai été toujours fasciné par ce trouble que nous avons face à l'iconographie, au pictural, à l'image. Cela va des destructions des Bouddhas ou des monuments, des statues de nudité un petit peu au sud de la Méditerranée jusqu'aux attentats contre Charlie, au rapport à la caricature. C'est ce trouble, c'est ce lien mauvais que nous avons avec l'image qui m'a toujours interpellé. Et être là, être dans un musée qui est déjà un espace pas très orthodoxe, qui est un espace de contestation quelque part, c'est un espace qui à la fois conserve les différences mais en même temps les proclame. Et être face au tableau d'un maître, donc face à un art qui n'est pas très en odeur de sainteté dans l'orthodoxie musulmane, et être face à des tableaux qui décrivent le nu, donc je suis dans l'absolue hérésie quelque part. Donc tout cela m'a interpellé.
Alors c'est très sûrement stupéfiant de se retrouver la nuit dans ce grand privilège comme ça, et au milieu de ces tableaux incroyablement sensuels, mais aussi dans un monde glacé, parce que ces musées sont comme des églises, ils sont froids.
C'est des temples.
C'est des temples, ouais.
C'est des temples. Autant que l'art est une prière, mais comme je le dis souvent, c'est une prière sans soumission. Donc on est toujours, c'est vrai qu'on est dans le rituel, on peut être piégé par le dogme. Si vous n'êtes pas un spécialiste de la peinture, vous êtes un petit peu mal vu. Donc on est aussi dans tout ce qui fait une religion, le dogme, le rite, l'hérésie, la nouveauté, la prière, la méditation.
Effectivement. Vous opposez dans la première phrase qu'on a entendue là tout à l'heure, vous dites pour comprendre Picasso, il faut être un enfant du vers, de la poésie donc, et pas du verset. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
C'est une formule un peu raccourci, très très violente sur le fait, je voulais signifier aussi que je n'étais pas né dans une culture qui a la culture de l'image, qui a le culte de l'image, du pictural. Au contraire, c'est une culture du vide, enfin qui privilégie la calligraphie ou d'autres formes d'art, mais pas l'image en elle-même. L'image est très mal vue. La représentation est vue comme attentatoire au divin. Donc, et c'est pour ça que je parlais du verset. Et ce rapport à l'image, il est conditionné par la religion. Par ce que l'on veut vivre de l'islam. Et c'est pour ça que je disais, je suis un enfant du verset, pas du vers. Le vers, c'est quelque part une sorte de sécularisation des psaumes. La poésie, c'est une forme de livre sacré, mais qui ne tombe pas du ciel, quelque part. Donc je voulais signifier que je venais d'une culture et pas d'une autre. Et que mon regard sur la peinture de Picasso était conditionné aussi par cette culture.
Alors la poésie vous paraît, le vers vous paraît un antidote?
C'est un antidote, c'est une évolution aussi de la culture, c'est-à-dire c'est une épopée de la prise de parole de l'homme. On est passé du livre sacré à la poésie, je veux dire, on est quand même dans quelque chose qui se sécularise, et de la poésie vers le récit, vers le roman. Du roman vers la chronique, vers le tweet, vers le post Facebook. Donc on sécularise au fur et à mesure, on se débarrasse, on reprend parole à la place du ciel. Et c'est quelque chose qui m'interpelle.
Écoutons ce que vous dites sur ce que vous voulez creuser dans cette idée, juste un instant.
Je voulais creuser cette idée sans raconter cette fiction attendue. Réfléchir à l'occasion mon propre rapport à l'image. Ma peur culturelle face à la représentation, entre le « je suis Picasso », tenace, inquiet, ferme et menacé, et le « je suis Allah », tangué, interrogeant mes mythes et mes certitudes.
Vous Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Et j'ai la chance d'être avec Kamel Daoud qui raconte sa rencontre avec le Picasso érotique de 1932 dans un livre magnifique, Une nuit au musée, hein, qui s'appelle Le peintre dévorant la femme. Et nous venons d'entendre votre réaction sur ce que vous cherchiez là-bas. Mais là-bas, vous avez donc cherché quelque chose qui est une rencontre entre deux cultures. Et puis vous avez rencontré une histoire d'amour. Qui n'est pas la vôtre, qui est celle de Picasso rencontrant Marie-Thérèse. Ça vous a impressionné, cette puissance de déflagration de l'amour que tout d'un coup, du désir même, de l'amour charnel que Picasso ressent? Vous l'avez ressenti dans la nuit du musée?
Au début, je suis arrivé avec beaucoup d'appréhension, sachant que je ne suis pas un spécialiste de la peinture, encore moins de Picasso, et surtout que ma culture de la peinture, c'est quelque part une sous-culture, c'est ce que j'ai ramassé après 30 ans, mais pas avant. Il n'y a pas de tableaux, il y a très 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 peu de musées en Algérie. Nous n'avons pas été éduqués à voir, à regarder, à déchiffrer ou à vivre l'intensité de la peinture, du peintre ou de l'acte créatif. Donc je suis arrivé avec cette idée, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais voir? Et cette appréhension, ce que j'appelle moi l'appréhension blanche, c'est-à-dire c'est ce que je ressens à chaque chronique, à chaque ouvrage. J'arrive toujours avec l'idée que je n'ai rien à dire et je commence par écouter une voix, par construire une sorte de discours. Je refuse le vide. Donc je suis arrivé et j'ai commencé à regarder ce journal. Et c'est véritablement un journal. C'est ce que je dis dans l'ouvrage, c'est un orgasme qui dure une année. Et ça commence en janvier et ça finit en décembre. Au premier tour, au deuxième tour, j'avais compris que c'était un cycle. Et ce cycle se construisait comme un récit. Et ce récit se donnait à voir comme une sorte de déshabillage, entre guillemets, de mise à nu du corps, de reconstruction du désir. Et la première impression, c'était celle que, contrairement à ce que je pensais, Picasso a réinventé le nu. Il a réinventé la façon de peindre le nu. Et c'était la première idée qui m'est venue à l'esprit. Et je me suis accroché à ça.
Il faut dire que dans les toiles de Picasso, donc c'est d'une période assez particulière, nous sommes effectivement en 1932, il y a cette grande rupture amoureuse, et les toiles deviennent des corps en métamorphose permanente. On a l'impression qu'il y a une fusion du corps de l'homme et du corps de la femme en permanence représentée, même quand la femme est immobile et attend.
Tout à fait. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que j'ai ressenti du moins. C'est-à-dire, là, Picasso ne peignait pas comme ses aînés le nu dans une sorte de position statique. La femme n'était pas là avec sa poitrine, avec son beau corps. Elle n'était pas là dans une sorte d'immobilité, de mort, quelque part. La femme n'était plus une nature morte. Elle était saisie à l'instant même où elle était mordue, où elle était désirée, où elle était pénétrée. Et c'est très important. J'ai conclu que Picasso n'était pas là pour peindre une femme nue, mais était là pour peindre la femme nue au moment même où il l'embrasse, où il la mord, où il la saisit, où il est saisi par elle. C'est-à-dire ce qu'il peint, c'est l'érotisme dans le vif. C'est une coupe en verticale dans une sorte de baiser.
En fait, quand vous parlez du baiser, vous parlez aussi de la morsure dans le livre, et vous parlez de cet étrange retournement du chasseur qui a envie d'être dévoré.
C'est la première idée qui m'avait traversé l'esprit. Je me suis dit, mais finalement, dans l'érotisme, dans cette chasse amoureuse, ce que l'on veut, ce n'est pas réduire l'autre à être une proie. On veut être sa proie. On veut être dévoré par cette proie que l'on chasse, par cette personne que l'on désire. Et donc finalement, c'est un désir de mort, c'est un désir de pénétration, de dissolution quelque part. Et c'est ce renversement qui m'avait saisi dès le début. Je me suis dit, il y a quelque chose à dire dans ce sens-là. J'aime, je pourchasse, je chasse non pas pour m'approprier l'autre, mais pour me perdre en lui.
On le sent très fortement dans toutes les pages que vous accordez à l'interprétation de ces tableaux. On voit à quel point la transformation du corps de Marie-Thérèse, qui par moments devient comme ses jambes deviennent comme des jambes de pieuvre, par moments ses seins deviennent des phallus, par moments ou bien des couilles. Il y a une sorte d'incroyable mélange que vous exprimez qui vous a troublé, qui vous a.
Ce n'est pas un mélange, c'est un cinéma. C'est un mouvement, c'est un clip, quelque part, si j'ose le raccourci. Ouais. C'est-à-dire, le corps n'est pas perçu dans l'immobilité, c'est-à-dire après ou avant. Il est perçu dans le moment même où il est, je dirais pas consommé, mais dévoré. C'est le cannibale qui peint le goût et non pas les formes uniquement. Et c'est pour ça que le corps, vous savez, quand on embrasse ou quand on est embrassé dans le moment même où on fait l'amour, on ne perçoit pas le corps dans la distance. On est dans le trouble. On est dans une sorte de tâtonnement, de pétrissage quelque part. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on embrasse, lorsqu'on jouit, lorsqu'on est dans l'autre, on ferme les yeux. on s'abandonne totalement. On abandonne cette propriété constante du corps. Et c'est ce qui m'avait saisi. Picasso ne peint pas la femme aimée, il peint l'acte même de l'aimer.
Vous avez raison, et très souvent vous revenez là-dessus, d'ailleurs c'est une phrase que l'on entendra au cours de l'émission, mais sur le fait d'aimer à tâtons, enfin il peint comme on touche un corps avec ses doigts, il ne peint pas avec les yeux, il peint avec sa main.
Exactement, et c'est ce qu'il dit, c'est ce qui fait qu'il a abouti à des formes d'expression qui sont très, très, très rusées. Il peint des sculptures. C'est-à-dire, il peint même l'acte de saisir et de pétrir quelque chose. C'est quelqu'un qui peint des statues, au lieu de les fabriquer.
D'ailleurs, ensuite, il va les décomposer, prendre chacun des éléments, faire une sorte de peinture extraordinaire, où les membres sont comme écartelés les uns les autres.
Plus que cela, il dit cette métaphore, il prononce cette métaphore que je trouve extraordinaire, où l'os du corps d'autrui n'est pas quelque chose de rigide. Au contraire, c'est la dernière trace des mains d'un dieu. Et j'ai trouvé ça extraordinaire.
Oui, parce qu'on sent la main physique, hein, l'intelligence de la main de Dieu qui fabrique le bout des os, ces arrondis, etc. C'est sculpté, quoi.
Exactement, on sent la tension du muscle.
Oui.
On sent la pesanteur, on sent la résistance de la matière. Et ce sont les traces, pour Picasso, le corps porte quelque part les traces du muscle de celui qui le pétrit.
Alors, quand les tableaux sont arrivés dans l'atelier du peintre, en 1932, Canveller visite cet atelier et est stupéfait. Alors je vous propose, on fait une petite exception, c'est pas votre texte cette fois-ci, c'est Canveller qui écrit à son ami et dit ce qu'il a vu.
La peinture n'est supportée que par Picasso, comme tu le dis, mais combien merveilleusement. Nous avons vu chez lui il y a 2 jours 2 tableaux qu'il venait de peindre, 2 nus, qui sont peut-être ce qu'il a produit de plus grand, de plus émouvant. Il semblerait qu'un satyre qui viendrait de tuer une femme aurait pu peindre ce tableau, lui ai-je dit à propos de l'un d'eux. Ce n'est ni cubiste, ni naturaliste, c'est sans artifice aucun de peinture, c'est vivant, très érotique, mais d'un érotisme de géant. Depuis bien des années, Picasso n'avait rien fait de pareil. « Je voudrais peindre comme un aveugle, avait-il dit, qui ferait une fesse à tâtons. » C'est bien ça. Nous sommes sortis de là, écrasés.
Cette lettre de Canveller de 1932, on sent tout de suite d'abord l'intelligence de l'œil de Canveller, qui est ce grand marchand et qui sait que Picasso, qui est pourtant dans un moment de mutation, il sait le regarder, il sait aller au bout, et il parle de Picasso comme un satyre, presque comme un criminel. On frôle en permanence, vous qui défendez absolument la vie, l'amour, les femmes, la joie, on sent frôler, on sent rôder tout le temps le meurtre, mais c'est un meurtre poétique, un meurtre symbolique, j'imagine.
Un meurtre sensuel, si je peux dire, un meurtre amoureux. J'admire cette précision de Canveller sur le peintre qui peint une fesse à tâtons. C'est extraordinaire, je veux dire. C'est-à-dire, Picasso, pour lui, comme pour moi, n'est plus le peintre voyeur, c'est le peintre participant. Et ça, on casse déjà quelque chose qui dure depuis des millénaires. C'est-à-dire, on peint ce qu'on voit, mais lui, il peint ce qu'il goûte. Et c'est un pas vers l'avant. Et la formule, elle est magique.
C'est très beau.
C'est très juste en même temps. Et en même temps, on est aussi au siècle de l'inconscient. On est après Freud. Et on est aussi dans cette tradition qui découvre qu'il y a des liens très troubles entre la mort et le désir, entre le cannibalisme et l'amour courtois, quelque part, entre le fait de mordre et le fait d'aimer. Et on commence à décoder quelque chose de profond, et qui va émerger par la suite. On aura de grands traités sur l'érotisme, sur la mort, sur l'art, autrement vu et vécu. Et c'est vrai qu'il faut imaginer que ça a été dit à cette époque-là, par quelqu'un qui, par son regard, a déjà compris qu'il y a un lien mais féroce et indépassable entre cannibalisme et passion.
Alors, il est vrai que dans la culture de l'époque, on pense à Bataille, aux travaux de l'ethnologue, philosophe et écrivain Michel Léris. On sent tout le temps, sous Caillois, on sent tout le temps rôder ces questions entre amour, mort, le sacré, le profane, la façon dont, vous souvenez-vous des textes sur la menthe religieuse, enfin tout ça doit fasciner Picasso.
Et c'est son siècle aussi.
Il est en plein dans son siècle. Hein. C'est vrai, vous parliez très justement du rapport à l'inconscient et ce désir de mort et de désir.
C'est le siècle de l'invention ou de la réinvention de l'inconscient autrement, mais c'est en même temps... C'est un siècle de démantèlement aussi. On est dans le démantèlement de l'amour courtois, de l'amour voyeur, de l'amour immobile. On est dans la restitution de l'acte même d'aimer, dans la peinture de la sensualité.
Alors quand vous parlez de l'amour courtois, que je comprenne bien ce que vous voulez dire, vous parlez évidemment de cet amour très, très, très trouble et comment dirais-je, de ce jeu d'amour, n'est-ce pas, où on fait la cour, on prie l'aimé, on la respecte, etc., et qui semble faire un culte extraordinaire de la distance avec l'aimé.
Tout simplement. Et qui cultive cette distance, parce qu'il en a besoin justement pour y projeter, pour y investir tout ce qu'il n'a pas, tout ce qu'il attend, tout ce qu'il imagine. Alors que dans début du XXe siècle, on est dans l'amour collision, quelque part. On est dans quelque chose qui va au-delà de cette distance-là. On casse cette distance.
L'amour courtois, n'était-ce pas justement un point de rencontre entre le monde arabe et le monde européen? Est-ce que c'est pas dans le sud de la France, dans le nord de l'Espagne, un peu au XIVe siècle, ce qui se passait? Non, vous le ressentez pas?
Très possible, mais j'ai une méfiance allergique vis-à-vis des exotismes. Donc, l'amour courtois, bien sûr qu'il a existé, il a été magnifié, selon différentes époques, dans différentes géographies, je pense que ça existe. Est-ce qu'il est méditerranéen? Je ne peux pas le savoir. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Est-ce qu'il a été un moment arabe? Oui. Est-ce qu'il a été un moment une sorte de raffinement de post-Moyen-Âge? Je suis tout à fait d'accord. Mais,
c'est probablement une exacerbation du désir par la distance.
Oui, mais aussi parce qu'il subissait aussi la distance. La distance était gérée par les rites, par la loi, par la culture, par l'interdit religieux. Donc on est aussi, avec Picasso, dans l'explosion de ces barrières-là.
Alors, on va raconter l'histoire, puisque l'histoire que vous avez découvert et dont vous parliez à l'instant extrêmement bien, c'est l'histoire de la rencontre entre Marie-Thérèse Walter, qui va devenir la maîtresse de Picasso. Et voilà, page 84, vous racontez cela. Donc, écoutons-vous.
Marie-Thérèse Walter, la femme aux mille corps de Picasso, est aussi mon histoire jamais vécue, attendue. Je n'ai vu une femme entièrement nue que vers mes 25 ans. Avant, elle était une histoire éparse. Un téton brun à 14 ans, une cuisse en été lors du retour d'une cousine émigrée en France, la croupe d'une femme dans une publicité diffusée sur une télé espagnole quand on a réussi à capter ses chaînes durant mon adolescence, des lèvres luisantes sur la couverture d'un livre quand j'avais 9 ans. L'obsession de la virginité interdisait l'accès à l'entrecuisse des jeunes filles embrassées. On vivait le sexe comme un monde invisible et pesant. Loi de la gravité première, trou noir qui courbe tout, y compris les mots, quand on s'en approche un peu trop.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et je suis avec Kamel Daoud pour son livre Le peintre dévorant la femme, paru chez Stock dans la collection Ma nuit au musée. Et nous parlons effectivement du sujet de ce livre avec Kamel qui est la rencontre avec l'exposition Picasso érotique à l'intérieur de laquelle vous avez été invité à passer une nuit entière. Et dans le petit texte cet extrait que nous entendions, vous parliez au fond de la façon dont on essayait de rendre invisible dans le monde arabe le corps de la femme, alors que Picasso fait tout pour le rendre visible et aimé dans la peinture même.
J'ai vécu cette promenade dans le musée aussi comme une sorte de périple à travers des miroirs, en contemplant des miroirs qui me renvoyaient ma propre intimité. D'ailleurs, c'est pour ça que je me dis que nous avons un rapport trouble à l'image, parce que la peinture, c'est un miroir de ce que l'on se cache, de ce que l'on veut voiler. Et c'est vrai que dans mon souvenir, dans ma mémoire, dans celle de ma génération, de beaucoup de mes compatriotes, la femme, elle est là pour être cachée. La sexualité, c'est une allusion permanente. C'est un non-dit permanent. Tous les mots sont quelque part tendus entre deux pôles. Soit celui de ne rien dire, soit de s'approcher dangereusement des gros mots pour signifier la sexualité que l'on ne dit pas. Et c'est quelque chose qui vous frappe. Quand j'étais enfant, je me suis dit, mais la même occultation frappe l'idée du Dieu et le corps de la femme. Les deux sont invisibles, les deux sont omniprésents, les deux pèsent, les deux sont voilés, les deux se cachent, les deux sont interdits à la représentation. Et cette métaphore double entre le corps d'un Dieu qu'on ne peut voir, qu'on ne peut même pas imaginer de voir, qu'on ne peut pas dessiner, est étendue à l'image ou au corps de son prophète, et en même temps au corps de la femme. Et ce voilement-là m'a souvent, quand j'étais enfant, m'a intrigué. Je le dis dans ce livre, on me disait que Dieu était partout, mais je ne le voyais nulle part. Et en même temps, la femme était partout, mais je ne pouvais la voir nulle part, nue.
Il y a deux choses. D'abord, il y a vos frustrations d'adolescents et de jeunes amoureux, et celles de tous les amours clandestins qui ont lieu dans ces pays, où on a l'impression que pour aimer, il faut toujours trouver un refuge, on ne peut jamais...
C'est toujours le cas. Rencontrer quelqu'un, trouver un appartement ou pouvoir faire l'amour à la femme qu'on aime ou le contraire, c'est un périple. Il faudrait peut-être écrire un roman sur comment on fait, toutes les stratégies amoureuses pour se rencontrer, comment on essaie à la fois de vivre cet amour dans la clandestinité, dans les marges, dans le secret.
Alors, il y a une façon sur laquelle, quelque chose sur laquelle vous insistez beaucoup, au fond, on a l'impression que cette grande satisfaction amoureuse est reportée après la mort, comme s'il fallait passer par la mort pour pouvoir accéder à l'amour physique.
Exactement, et ça c'est, je pense, l'essence de la tragédie que nous vivons, c'est-à-dire cette mise en sursis par la mort de la jouissance. Si vous avez accès en langue arabe à toute la littérature basse de la promesse eschatologique, de la promesse du paradis, des discours des prêcheurs sur le net, dans les mosquées, etc. C'est extraordinaire comment on décrit le paradis. Le paradis, c'est un paradis du corps, un paradis de la pesanteur, de la gravité, un paradis de la matière. Alors que le corps ici est totalement occulté. Il est culpabilisé. On lui reproche d'être un corps et on lui promet de n'être le corps qu'après sa mort. C'est un paradoxe violent. C'est un paradoxe que l'on vit dans le suicide ou dans la violence aussi, qui est à la source de beaucoup de violence. Le seul moyen d'aimer, c'est de mourir. Le seul moyen de jouir, c'est de se décomposer. Le seul moyen d'accéder à la jouissance, au sexe, et à l'explosion des sens, c'est de ne plus avoir un corps. Comment voulez-vous ne pas être dans la violence ?
Oui, c'est absurde. Alors, il y a un chapitre dans lequel vous parlez de Marie-Thérèse, Marie-Thérèse Walter, la maîtresse de Picasso, qui a suscité ses œuvres de passion érotique. Vous la décrivez comme une houerie. Vous dites Marie-Thérèse est peinte comme une houerie. On vous écoute.
Marie-Thérèse est peinte comme une houerie, mais avant la mort. Les houris sont ces femmes vierges et éternelles que l'on offre en récompense aux croyants, hommes de Dieu, dans un paradis ouvert après le jugement dernier. Cette féminité liée à la mort est devenue puissante dans la mythologie du radical. Curieusement, elle semble surinvestie à l'ère du youporn plus qu'elle ne l'a été aux temps anciens, au Moyen-Âge musulman. On la décrit de mille et une façons dans les prêches et on détaille son anatomie jusqu'à l'hallucination. Étrange nœud du sexe, de la mort et de la frustration. Comme si le radicalisme était un retentissant échec érotique.
Thank you.
Vous écoutez L'Art et la Matière et nous continuons notre conversation avec Kamel Daoud et nous parlions de Marie-Thérèse vue comme une houerie. Et d'ailleurs, dans le texte, il y a des passages d'une sensualité folle qui sont extraits d'Adith et qui décrivent ces houries auxquelles nous aurions accès après la mort.
Il y a une immense littérature qui décrit un petit peu le paradis, les joies de la sexualité de l'autre côté. Il y a des presses qui sont très écoutées, qui sont là, qui sont accessibles sur l'internet, dans cette nouvelle littérature de recrutement islamiste. Et ces descriptions sont fascinantes. Elles sont fascinantes. C'est-à-dire, vous avez même des prêcheurs, c'est un ami qui a fait un film magnifique, un documentaire qui s'appelle Enquête au paradis. Et il a pris quelques prêches de prêcheurs très connus, je veux dire, qui ont beaucoup d'influence et qui décrivent les femmes et leur maquillage. Et généralement, on a même les noms des maquillages qui sont à peu près copiés sur les boutiques parisiennes. Et on y lit tout le désespoir érotique, toute cette misère sexuelle qui se reporte justement après la mort. Et c'est écouté, c'est lu, ça se répand, c'est quelque chose qui pèse énormément aussi sur les imaginaires des jeunes adolescents qui sont les plus proches et les plus tentés par l'absolu.
C'est étrange, cette idéalisation post-mortem. Ça vous conduit à des passages extraordinaires sur la pureté du corps, l'importance du désert, le sable comme métaphore du néant, au fond, de la vie à laquelle nous sommes conduits.
Tout se tient. Vous savez, dans le rituel musulman, si vous n'avez pas d'eau pour faire vos ablutions, vous pouvez utiliser du sable. Et je trouvais aussi cette symbolique très lourde aussi. Très lourde. On est presque tenté de voir une sorte de dépeuplement du monde. C'est-à-dire, on voudrait que la Terre ressemble au ciel. C'est absolument nu, absolument vaste, absolument froide et morte. Et on voudrait que le corps n'existe pas. Donc, il faut le laver, il faut le cacher, il faut l'ignorer, il faut marcher sur son propre corps pour atteindre Dieu. Et de l'autre côté, c'est véritablement l'inverse. On vous restitue votre corps après votre mort. Et on vous demande de vous en débarrasser pendant votre vie. Ce renversement-là, il est spectaculaire, mais il se décline de mille et une façons dans la métaphore de la purification, dans cette esthétique du vide. Le parfait croyant rêve du parfait désert. Pour lui, le désert est moins attentatoire à l'unicité. Toute multiplicité, toute collection, tout art, tout ornement est une atteinte à l'image du vide, à l'image de l'unicité de Dieu.
Vous parlez très bien d'ailleurs des collectionneurs qui essayent de rassembler ce qui pourrait être détruit comme une sorte d'opposition, une vision un peu contraire de celle que vous venez de décrire du monde musulman. Et puis vous parlez, vous opposez deux déserts, si j'ose dire, et qui sont très significatifs, me semble-t-il. C'est le désert dont vous parlez, cette attraction morbide du vide, et la plage. Et la plage qui est le théâtre de beaucoup de tableau de Picasso de cette année-là, puisque Marie-Thérèse était à Juan-les-Pins, lui était à Bois-Geloux, près de Paris, et ils espéraient se retrouver, il imaginait Marie-Thérèse sur la plage, et là, vous parlez de la plage comme un lieu qui s'oppose complètement à ce désert, à ce vide.
La plage est un espace, un champ de paradoxes. En même temps, c'est la fin de la terre et le début de l'eau. Enfin, quelque chose qui est le contraire de la terre, mais en même temps, c'est le dernier espace où le corps se retrouve, où le corps est exhibé, où le corps est vécu pour ce qu'il est. C'est-à-dire, vous entrez dans un temple ou une mosquée, on vous demande de vous déchausser de votre corps. Vous priez, on vous demande de laver, d'oublier votre corps. Et vous voyagez, vous changez de place, vous êtes habillé et quelque part, vous cachez une partie de votre corps. Mais le seul espace où on vous restitue, où vous réclamer la restitution quasiment complète de votre corps, c'est à la plage. À la plage, on ne prie pas. On bronze. À la plage, on ne se souvient pas. On jouit du soleil. On est dans ce qui reste de la Méditerranée, la Méditerranée des imaginaires, pas la Méditerranée géographique. Donc la plage, c'est véritablement un lieu où on vous restitue quelque part votre propre corps. Et c'est d'où le fait que maintenant, c'est devenu aussi un champ de contradiction, un champ de bataille idéologique. On y va par bikini, burkini, on construit des mosquées, par exemple en Algérie, des mosquées en bord de plage pour intimider les baigneuses. On essaie de... Chaque année revient cette bataille sur les plages, en France aussi, en Occident. La plage, c'est le lieu où maintenant s'est déplacée la bataille sur le corps et la propriété du corps.
On le voit bien dans les actualités, effectivement, la question du burkini s'est posée en Corse, c'est des choses très complexes, alors que c'est chez Picasso, ça n'est que pure jouissance et exultation des corps. C'est...
Pas uniquement chez Picasso, c'est tout le siècle qui a restitué quelque part la plage à la jouissance. La plage n'a pas cette importance au XIXe siècle.
Non, c'est vrai, c'est une invention du XXe siècle.
Exactement, et ouais. C'est une réinvention des corps.
Et d'ailleurs, à peu près contemporaine de ce dont nous parlons, puisque c'est...
Oui, mais c'est les premières années où on a inventé peut-être ce qui n'était pas encore les bikinis de maintenant, mais on y est déjà. Et c'est vrai que la plage n'existe pas au XIXe siècle, elle n'existe pas au XVIIIe siècle, c'est un espace négligé, alors que maintenant c'est l'espace vraiment très représentatif des acquis du XXe siècle. Et c'est pour ça qu'il est remis en question maintenant.
Alors dans votre livre, vous parlez à un moment donné du tueur de Sousse, cette petite ville balnéaire de Tunisie, on vous écoute.
Le 26 juin 2015, le tueur de Sousse, belle petite ville balnéaire de Tunisie, s'y promenait en vengeur, en punisseur, dans une inquiétante lenteur, avant d'abattre à bout portant 39 personnes. Le tueur de l'Arabe dans L'étranger d'Albert Camus décrit la plage, dans une série de féroces métaphores, comme le lieu où s'épuisent les croyances de son siècle. Meursault est un saint tombé dans l'enfer du sel. Et il tue alors le corps duel qu'il rencontre, celui de l'Arabe étendu nu, insinué, jouant de la flûte alors que la tragédie était dans les paupières du maraudeur au pistolet. Il le tue. C'est la grande confrontation entre une idée et une chair, le meurtre éternel et rejoué du corps. Meursault tue son corps, sa présence, son poids, son ombre, sa légèreté, son droit de s'étendre et de jouer de la musique, son insolence.
Vous êtes sur France Culture et je suis avec Kamel Daoud pour parler dans L'art et la matière de son livre indispensable, je crois, très beau, d'une poésie et d'une force singulière, Le peintre dévorant la femme, paru chez Stock et qui vient donc de sortir, et qui est une sorte d'hymne à l'art, pourrait-on dire, Kamel Daoud, c'est-à-dire l'art véritablement qui peut nous sauver de cette glaciation.
Oui, c'est un hymne au corps. C'est un rappel de la propriété du corps. C'est tout ce que nous avons. C'est tout ce qui nous différencie des dieux, des anges, des diables. C'est notre unique propriété. C'est le lieu de notre vie. Et c'est le lieu de toutes les batailles, de toutes les guerres, de tous les raptes, de toutes les invasions métaphysiques, idéologiques, politiques. On emprisonne votre corps. Et j'ai été frappé par le fait que chaque fois qu'il y a un mythe fondateur que l'on revisite, il y a toujours la confrontation entre une idée et un corps. Meursault tue un Arabe parce qu'il était allongé à l'ombre, jouant de la flûte, et qu'il disposait de son corps. Et on a l'impression que c'est Meursault comme idée, comme métaphysique, comme pensée qui tue un corps qui n'en avait aucune. C'était juste un corps. Dans Abel et son frère, il y a l'enjeu du corps. Je le tue, c'est une idée. Et qu'est-ce que je fais du corps? Je l'enterre, je ne sais pas l'enterrer. Donc on est toujours dans le corps. Quand Robinson rencontre Vendredi...
Ah, c'est quelque chose que vous insistez beaucoup sur... Vous avez une passion pour Michel Tournier, il faut dire. Et Vendredi et les Limbes du Pacifique est un livre très important.
Absolu. Mais là aussi, j'étais fasciné par une chose. Au-delà de tout, au-delà de ce que pouvait penser Robinson, sa première réaction, sa première pensée était sur le corps nu de l'autre. Donc on est toujours entre un corps... et une idée qu'il refuse.
Je voudrais revenir sur cette idée de Robinson, parce que vous en parlez beaucoup dans ce livre et dans d'autres livres d'ailleurs. Vous avez l'impression que nous avons échangé nos innocences, d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est nous qui nous sommes nous, c'est nous qui sommes occidentaux, qui sommes nus, et les non-occidentaux qui ne le sont plus. Et comme s'il y avait eu un échange. Vous évoquez cette question.
Un renversement. Je trouve ça amusant, parce que quand j'écrivais ce livre, je suis tombé un petit peu. Je relis souvent Robinson Crusoe et de Michel Tournier ou de ceux qui l'ont précédé, je veux dire Daniel Defoe, etc. Et j'étais frappé par le fait que maintenant on est dans une sorte d'époque de rétraction de l'Occident. Les missionnaires, vous les subissez. Vous ne les envoyez pas vers les autres pour les convertir. C'est le reste du monde qui essaie de vous convertir et ce n'est plus vous qui essayez de convertir le monde. Et en même temps, il y a ce renversement même physique dans Robinson Crusoe. Robinson reproche et sent scandalisé par la nudité de Vendredi. Maintenant, c'est le contraire. C'est Vendredi qui est scandalisé par la nudité de Robinson. C'est et ça. Il y a une phrase magnifique dans Robinson qui est prononcée dans Daniel Defoe. Il dit, je lui ai fait comprendre clairement qu'il doit abandonner le cannibalisme et s'habiller, sinon j'allais le tuer. Et c'est dit d'une manière brutale et crue. Et ce renversement m'a fasciné. Vraiment, il est fascinant. On est dans une sorte de reprise, dans un jeu de rôle, mais totalement inattendu.
Et ce que vous dites, qui est très important, je crois, on va l'écouter d'ailleurs, c'est que vous dites, au fond, le corps désiré n'est pas nu. Et c'est quelque chose qui est assez frappant, je pense, dans votre visite. Vous sentez que ce corps de l'autre, désiré, bientôt habillé de salive, bientôt couvert de baisers, bientôt exploré dans tous ses détails, n'est pas nu. Écoutons ce que vous en dites.
Le corps n'est donc pas nu pour Picasso parce qu'il est dénudé, mais seulement lorsqu'il est désiré, c'est-à-dire pourchassé. La proie n'est pas le cadavre, il lui faut s'inscrire dans un duel, une chasse, un parcours. Le peintre est cannibale à partir du moment où il ne peint pas une nature morte, mais une nature vorace, ouverte sur des humidités, des béances, une vulve et un ventre. Toutes les toiles que j'ai longuement regardées sont des moments scandés, des actes d'un sexe. Le moment de l'appréhension et de l'absence, avec le cou offert. Le moment de la contorsion lorsqu'on veut à la fois offrir, prendre sa bouche et son sexe. Le moment où se mêle le bras de l'amant à la fesse de l'amante. Le moment où la proie songe à sa vie d'avant, penchée sur une fenêtre, à la fois désirant la liberté et désirant la mort délicieuse. Le moment où le sexe du peintre pénètre la femme jusqu'à devenir son visage.
Continuons, portés par le génie de Picasso, notre conversation avec Kamel Daoud à propos de son livre « Le peintre dévorant la femme ». Et vous dites dans ce texte très justement que l'homme pénètre la femme au point que le sexe de l'homme devienne son visage. Et effectivement, vous l'avez vu.
C'est disons à la seconde promenade. Quand j'ai fait le premier tour, on est frappé par les couleurs, on est déstabilisé un petit peu par cette déconstruction du corps qu'on ne comprend pas. Au deuxième regard du tableau ou des tableaux, on comprend qu'il s'agit du corps, mais dans le vif, comme je disais tout à l'heure, dans son mouvement, dans sa dévoration. Au troisième regard, on comprend que ce que dessine Picasso, pour le naïf, il dessine le corps décomposé ou recomposé d'une femme, mais pour le patient, pour celui qui contemple avec patience, Picasso fait son autoportrait par le vide, par défaut. Il se dessine tel qu'il a sombré totalement dans le corps d'autrui. Et lorsqu'on regarde bien certains portraits de Marie-Thérèse, on voit effectivement en creux, mais même en évidence, le corps de Picasso, son sexe, sa façon de prendre et d'étreindre aussi. Et je me suis dit finalement, dans une sorte d'ego, mais de génie, il en a fait que ses autoportraits, mais au moment même où il n'est plus lui-même.
C'est absolument frappant. Nos auditeurs n'ont pas forcément les tableaux en tête, mais dans le caractère recomposé des visages, dans le caractère du visage parfois divisé en deux, si on regarde bien l'autre moitié du visage, eh bien ça devient un phallus. Les seins deviennent des couilles. Et puis il y a quelque chose de très très tendre, parce que il y a la saisie des deux corps ensemble qui deviennent, vous le dites, vous avez ce mot-là, comme un œuf cosmique.
Oui, c'est ce qui me reste de mes lectures sur les alchimistes. Mais bon,
c'est vrai, mais en même temps, c'est l'union absolue.
Exactement, c'est l'union rêvée, fantasmée, c'est l'orgasme qui n'est interrompu par rien. Le nôtre dure quelques secondes, mais celui-là, il dure toute la vie, ou on le rêve ainsi, comme durant toute une vie, ou toute une mort, ou toute une éternité. Donc, il est dans une sorte de volonté de posséder, d'être possédé, mais absolu. Il veut que son corps et le corps de Marie-Thérèse ne deviennent qu'un seul. Et c'est la seule possibilité d'apaisement qu'il peut peindre, qu'il peut envisager et qu'il peut imaginer. Effectivement, il peint un corps hermaphrodite quelque part, un corps total, un corps reconstitué.
Alors ça c'est extraordinaire, vous avez sans doute regardé les photos de Marie-Thérèse, c'est une femme qui est assez puissante, hein, n'est-ce pas?
Elle est,
hein, avec ce nez très caractéristique qu'on voit dans ses têtes.
Exact, mais en même temps, je la vois avec les yeux de Kamel Daoud, pas ceux de Picasso. Et c'est vrai que le regard que l'on porte sur autrui, il est fait à moitié par sa propre histoire, par ses propres creux, je le dis dans ce livre. Picasso peint ses propres creux, ses propres vides, ses propres manques. C'est ce qui lui manque de son propre corps qu'il repeint quelque part avec Marie-Thérèse.
Alors, il y a un très beau passage qu'on pourrait écouter dans lequel vous racontez comment Picasso peint le nu, et ça vaut la peine de l'explorer. Et on voit la violence essentielle, mais aussi la violence amoureuse dans ce qu'elle a de plus unitaire, en fait.
Picasso peint le nu, comme tout l'Occident. Sauf qu'il le fait avec l'œil du chasseur, l'œil érotique en quelque sorte. Il fixe le désir et le désiré. Il peint son propre corps nu en même temps, enchâssé dans le nu du modèle qui devient l'aquarium d'une obsession. C'est sa grande révolution, son contre-Occident, son attentat contre les formes anciennes de son époque. Dans le nu ancien, le corps dérobe le sexe, l'éteint, le vide de sa violence essentielle, le pare de tiédeur, en fait une étude. Ici, le sexe, le pubis, les seins, la vulve et les fesses sont le vrai corps qui repousse le reste de l'anatomie vers l'arrière-plan. Le modèle n'est plus des cuisses qui cachent un sexe touffu, il est cette vulve que les jambes continuent comme une vallée. Le nez est une prolongation de la verge, le corps devient l'accessoire du sexe et pas le contraire. D'ailleurs, le modèle n'est plus un objet tenu à distance dans le froid de l'atelier, mais quelque chose plus proche que le sang même du peintre, un mouvement. L'artiste ne dessine pas un fruit, mais une mastication, une salive.
Vous êtes sur France Culture et vous venez d'entendre un texte de Kamel Daoud, extrait de son livre Le peintre dévorant la femme. Et c'est un texte qui est magnifique et qui est la contemplation, effectivement, incroyablement instructive et incroyablement, comment dirais-je, dévorante de notre propre imaginaire que vous faites de votre regard sur Picasso. Sur Picasso avec lequel vous avez passé une nuit, si j'ose dire, une nuit en compagnie de ses tableaux au musée Picasso. Il y a un an et demi à peu près.
Un an,
voilà. Et c'était une assez extraordinaire idée d'Alina Gurdiel de vous proposer cela pour cette collection.
C'était vivifiant quelque part. Quand on m'a proposé cette idée, je me suis dit tiens, je vais non seulement vivre une expérience physique particulière, je veux dire.
Oui, c'est long une nuit au musée, hein.
Non, ce n'est pas long.
Non, c'était pas long.
Non, ce n'est pas long. Mais en même temps, une sorte de visite. Visite de privilège aussi, parce que je ne supporte plus de visiter les musées maintenant dans cet excès de foule, cet excès de tourisme qui ne vous donne plus l'occasion de contempler, de méditer, mais juste de passer. Et donc, il y avait la tentation parce que c'était exotique, c'était inattendu, c'était un moment de privilège et en même temps il s'agissait de Picasso. Et je n'ai pas choisi que ce soit cette exposition érotique, c'est vraiment venu par un hasard de calendrier.
Oui, enfin, ça rejoint des sujets qui sont très importants pour vous, qui est effectivement l'importance du corps pour essayer de sauver la société des rigidités qui s'y installent.
Bien sûr, le hasard a très bien fait les choses.
Et alors, curieusement, au milieu, je serais curieux d'avoir votre sensation, votre réaction, vous en parlez dans le livre, on l'écoutera tout à l'heure, mais au milieu de ces corps désirés, au milieu de l'expression de cette passion, tout d'un coup, il y a une crucifixion. Et vous avez dû être surpris de voir, au fond, tout d'un coup, ce symbole religieux très, très conventionnel, non pas dans sa forme, avec Picasso, rien n'est conventionnel avec Picasso, mais qui surgisse là, au milieu des corps désirés.
Surpris, non. Parce que je comprenais un petit peu la démarche. Au bout d'une nuit, je devinais, pas, je comprenais, c'est prétentieux, mais je devinais un petit peu la démarche. On est toujours dans l'enjeu du corps. Parce que, qu'est-ce qui est crucifié? Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un homme d'exception, ce n'est pas le Fils de Dieu, ou le contraire, c'est le corps qui est crucifié, c'est le corps qui souffre. Et quelque part, ce que voulait dessiner, je me suis dit, ce que veut représenter Picasso encore une fois, c'est le corps dans sa douleur, pas le corps dans sa représentation statique. Ce n'est plus un Christ qui est crucifié, c'est un corps boursouflé. C'est un corps décomposé justement par cette douleur-là. Et il efface tout le reste de l'arrière-plan. La croix disparaît, les gens autour disparaissent, la nuit disparaît, le jour disparaît, le ciel disparaît. Il ne reste que cette douleur-là. Vous savez, quand vous avez très très mal,
oui.
Tout le reste n'existe pas. Il n'y a que votre douleur. Elle vous obsède, elle s'accapare la totalité de votre corps. Elle le décompose. Vous avez mal aux dents, c'est votre corps qui change de centre de gravité quelque part.
Et c'est vrai que cette crucifixion que l'on voit, c'est vraiment des fragments de corps qui sont déployés sur le papier.
Exact. Et en même temps, je me suis dit que Picasso a compris qu'il n'y a dans l'histoire de l'Occident que deux corps majeurs. Il y a le corps du Christ et le corps nu de la femme. Et que, selon les époques, l'un gagne, l'autre perd. Et parfois, c'est le second qui gagne et qui prend de la visibilité, alors que l'autre se rétracte vers les temples, vers les églises, vers les lois. Il y a des moments où le corps crucifié reprend ses droits, reprend ses territoires, et c'est le corps nu de la femme qui est caché, qui est voilé. Et je me suis dit, il va entre ces deux corps. Il a compris que les deux corps sont liés.
Il y a par moments, quand même, dans l'histoire religieuse, dans l'histoire mystique, une rencontre entre le corps aimant et l'extase religieuse.
Oui, mais au prix d'une facture que je ne supporte pas. On veut connaître l'extase en trahissant son corps. C'est quelque chose que je vis dans ma culture et que je ne supporte pas.
J'ai pas bien compris.
Alors, le mystique, que veut-il? Il veut rencontrer un dieu. Mais il sait que dans l'équation, le seul moyen de le faire, c'est soit de mourir et d'y aller, donc de perdre son corps, soit de torturer ce corps-là par les privations, par l'ascèse, par les frustrations aussi qui sont cultivées comme étant des vertus. Et donc le seul moyen de jouir, de connaître l'extase, c'est justement d'être l'ennemi de son propre corps, par les privations, par la solitude, chez les moines, chez les mystiques. Alors que dans l'amour érotique, je rencontre véritablement l'autre et je jouis véritablement de mon corps et c'est tout ce qui m'appartient.
Alors il y a un érotisme religieux auquel vous faites allusion, il y a un cri du mystique, Sainte Thérèse.
Oui, mais encore une fois, à quel prix?
À quel prix?
Oui, oui. À quel prix?
Écoutons ce que vous en dites.
L'érotisme mène à la même frontière que la croyance, il mène à la ferveur. La croix est ici la scène d'une autre dévoration. Elle désarticule, efface les décors anciens et coutumiers, ramène à l'essentiel et peint le corps dans son volume, sa présence dans la chair du spectateur. La foi est une saisie ample et intime d'une vision, l'érotisme procède de même. Picasso peint un supplice. Il est dans la tradition de l'Occident à mes yeux. Il continue la peinture des deux corps essentiels de ce continent, celui de la femme, celui du crucifié, le Christ. Il aura fallu peut-être des siècles pour s'avouer le lien intime entre les deux, autrefois à peine admis par les grands mystiques et leurs cris d'extase.
D'écouter un extrait du texte « Le peintre dévorant la femme », un livre de Kamel Daoud, et j'ai la chance d'être avec Kamel Daoud pour évoquer tout cela. Et Kamel, tout ça s'est passé autour de Picasso, on en a parlé à de nombreuses reprises pendant cette émission. Vous avez l'impression que cette rencontre avec la peinture occidentale est quelque chose qui va continuer à exister dans votre œuvre? Est-ce que vous regardez la peinture comme vous lisez la littérature avec une sorte de, d'appétit du même ordre ou c'est tout à fait autre chose, le langage?
Non, je suis un lecteur, essentiellement. Je suis né dans un village où je n'avais pas accès au musée, au cinéma, au ballet, au théâtre. Je suis un lecteur. Tout se lit pour moi, y compris la musique, quelque part. Ma culture, enfin, j'ai l'œil qui est intéressé par ce qui est écrit, par le mot. Avec Picasso, il y a une sorte de possibilité de réveil des autres sens, ou d'éveil des autres sens. Je regarde maintenant les tableaux autrement. Je continue de réfléchir sur la représentation. Soit d'un point de vue politique, pourquoi le décoloniser à ce problème d'image, à ce narcissisme postcolonial? Pourquoi il refuse la critique? Pourquoi chaque fois que je m'assois dans une radio en France ou à Copenhague ou ailleurs et que je parle de mon monde, on m'accuse dès mon retour d'être le traître parce que je représente autrement que l'image que l'on veut garder et donner de soi-même. Donc je réfléchis sur la représentation, mais cela va encore plus loin. Je suis fasciné par les théologies. Comment représente-t-on Dieu? Pourquoi on refuse de le représenter? Pourquoi il y a ce rapport violent à l'image? Vous savez, dans la culture islamiste ou les propagandes conservatrices dans le monde qu'on appelle arabe, c'est indigne, crie au scandale lorsqu'on dessine ou caricature un prophète, parce que pour eux, cela porte atteinte à l'islam. Ce que je peux admettre comme logique, mais dans cette logique-là, Daesh qui égorge quelqu'un, c'est aussi une image fausse et scandaleuse que l'on donne de l'islam. Pourquoi alors on ne s'indigne pas de ce que fait Daesh comme atteinte à l'islam?
Qui est la pire des caricatures.
Exactement, et on se scandalise pour un jeu de dessin. Donc il y a quelque chose de troublant. Pourquoi refuse-t-on le miroir? Pourquoi refuse-t-on la représentation? Quel est l'avenir de la peinture? Quel est le sens de la calligraphie? Pourquoi nous voulons un monde vide? Un monde sans ornement, un monde sans femme, un monde sans désir. Et tout cela, c'est un mystère que je ne puisse pas avec un livre. C'est une obsession dans ma vie, je veux comprendre.
Merci infiniment Kamel Daoud, c'était passionnant de vous écouter. Vous voulez comprendre l'art, la littérature, vous permettre d'aller plus loin et d'essayer au fond de guérir, de nous guérir de la perte du désir du monde.
Et de nous guérir des métaphysiques féroces qui nous tuent.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu le grand écrivain pour moi, Kamel Daoud, pour nous parler de son livre « Le peintre dévorant la femme ». Ça vient de sortir chez Stock, un livre qui, à travers Picasso, tente de répondre à cette question fondamentale, n'est-ce pas Kamel? L'art peut-il guérir mon personnage de sa perte de désir du monde? C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Delphine Baudet, lecture des textes Mélissa Barbeau, réalisation Franck Lilin, merci Franck. La semaine prochaine, et ça va être passionnant, on va rencontrer la dynastie des Nadar, les grands portraits du 19e siècle, cet univers extraordinaire de l'archéophotographie, la naissance des choses. Et chers auditeurs, à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture. Thank you.